Très content de le recevoir alors que la nouvelle est tombée ce matin, annoncée sur nos réseaux sociaux. Martin Thériault, qui sera le nouveau co-animateur du podcast Processus de la Commission athlétique avec Anthony Marcotte et également Marco D'Amico. Martin, comment vas-tu? Félicitations!
Ben, merci beaucoup. Tout d'abord, merci beaucoup, FX. Ben, écoute, ça peut pas vraiment mieux se passer. Écoute, premièrement, super belle journée.
Ouais.
Puis ben là, tu te lèves, évidemment. Ça fait quelques jours qu'on sait qu'on part dans cette belle aventure-là. Ouais. Ça va être super agréable. Évidemment, je parle d'espoir déjà avec le podcast La Relève depuis plusieurs années. Mais ça va permettre d'ajouter d'autres cordes à mon arc, d'être capable de parler un peu plus d'LNH qu'on a fait cet été. Mais dans la saison de hockey, j'avais moins l'occasion de le faire. Donc, je pense que, premièrement, je suis très, très, très reconnaissant de la confiance qu'on a pu m'accorder du côté des patrons de BPM Sport, notamment Martin Tremblay, avec lequel j'ai pu parler. Puis, tu sais, je te cacherai pas aussi, FX, un gars comme Anthony Marcotte, j'ai travaillé avec lui à TVA Sport. Ça fait plusieurs années qu'on se connaît, on a d'excellents amis. Et tu sais, parfois, oui, je collaborais sur les émissions, par exemple, les reportages du Rocket de Laval, mais de faire vraiment quelque chose ensemble où on peut vraiment mettre nos idées en place, de vraiment faire des plans et tout ça, c'était pas vraiment arrivé, donc je suis... extrêmement excité de travailler également avec Tony. Puis Marco D'Amico, ben, j'ai eu l'occasion de le connaître un petit peu plus dans le direct du repêchage 2024 à BPM Sport. Lui également, c'est un chic type, tu vois, qui l'est renseigné. Et tu sais, il a fait un excellent travail cet été, notamment avec la transaction de Noah Dobson. C'est lui qui l'a annoncé. Donc vraiment, vraiment très, très, très heureux. Puis ça me permet de parler d'hockey en général, pas simplement d'espoir. On va continuer de parler d'espoir quand même pas mal. C'est quand même ma passion.
Mais Martin, t'es une bébête des espoirs. Tu connais tout. Tu suis tout également. C'est quelque chose qui te passionne infiniment, puis pour te connaître depuis, bon, une ou deux années maintenant, mais je suis très content pour toi. Je sais à quel point c'est quelque chose qui te passionne énormément. Et vous mentionnez que la première de la saison sera diffusée le mercredi 17 septembre prochain. Avez-vous déjà jasé ensemble de plusieurs idées pour la prochaine saison de Processus?
Ben on a pas nécessairement dans les sujets précis, parce que tu sais, il faut pas se le cacher non plus. Tu sais, 17 septembre,
ouais,
ça nous amène pas mal dans les débuts des camps d'entraînement. Exact. Ça va beaucoup se passer avec l'actualité. Évidemment, on va aller à Brossard, on va aller voir exactement ce qui se passe avec les joueurs, on va aller voir ce qui se passe au niveau des différents joueurs qui peuvent se battre pour des postes. On le sait que Kirby Dack ne commencera pas la saison. Donc là, ça amène plein de questions. Qui va être le deuxième joueur de centre? Est-ce qu'on fait confiance à Jake Evans? Est-ce qu'on va faire une transaction? J'ai vu des rumeurs avec Jared McCann hier. Donc ça amène vraiment toutes sortes de possibilités. Et petite précision pour surtout les auditeurs du podcast La Relève,
ouais,
parce qu'on a reçu beaucoup de questions. J'ai pas eu le temps de répondre parce que je me préparais à ma chronique de cet après-midi, là. Mais je pense que c'est important de le mentionner. C'est très complémentaire. Le podcast La Relève avec Anthony Desauniers demeure. En fait, on est extrêmement excités. On va avoir des nouvelles également de ce côté-là. On veut bonifier notre offre également de ce côté-là. Donc, ça reste, c'est la même chose. Je dirais que Processus, on va aller parler de choses un peu plus justement complémentaires. Quand les sujets repêchage vont se mettre en branle, je pense qu'il est évident que parfois, ça va peut-être se mêler et tout ça. Mais tu sais, il y a des espoirs dans lesquels je parle au podcast La Relève qui ne seront peut-être pas visés pour les auditeurs de Processus. Tout ça, c'est vraiment plus du hockey dans son ensemble. Donc, je pense que là-dedans, là, les auditeurs vont trouver leur compte, du moins ceux qui suivaient les deux balados. Là,
mais c'est déjà un plaisir de t'entendre davantage, Martin, sur nos ondes, surtout lors de la dernière saison. Tu étais là également lors des émissions de repêchage. Tu es suivi également lors de la dernière émission de repêchage. Tu as fait un excellent boulot avec Anthony Desauniers et Greg Langto. Alors, très content pour toi. Puis, comme je l'ai mentionné, le premier épisode sera diffusé le mercredi 17 septembre. Un pour qui je suis plutôt déçu, c'est Lane Hudson, Martin, qui n'a pas été invité au camp d'orientation de la formation américaine. Et quand je regarde la liste des 16 défenseurs américains invités, je me dis que Lane aurait dû avoir au moins une petite place parmi cette liste de 16 joueurs-là.
T'es entièrement d'accord avec toi, FX. De ne pas le voir dans la liste, premièrement, on avait déjà entendu des échos au cours des derniers jours. C'est pas surprenant si tu regardes le directeur général de l'équipe américaine olympique. C'est Bill Guérin.
Ouais.
Bill Guérin, c'est lui qui est le directeur général du Wild du Minnesota. Et tu regardes comment il travaille depuis plusieurs années. Pas besoin de regarder très loin. Regardez le dossier Marco Rossi, un centre de 5 pieds 9 pouces. Et là, on a des gros problèmes au niveau des négociations de contrat. On pense qu'il vaut environ 5 millions de dollars par saison. Le clan Rossi, avec raison, trouve que c'est une insulte. On pense qu'on vaut davantage 7 millions de dollars. Mais c'est se placer un peu dans la tête de Bill Guérin. C'est clairement que lui, avec l'équipe américaine, pour les Jeux Olympiques. Pour ceux qui se souviennent, les plus vieux de Bill Guérin, c'était un attaquant de puissance. C'était un gars qui était gros, c'était un gars qui jouait physique, avait un excellent marqueur, mais c'était surtout quelqu'un d'intimidant qui brasse la cage. Moi, j'ai l'impression que Bill Guérin, avec son équipe américaine olympique, on l'a un peu vu à la confrontation des quatre nations, c'était encore lui directeur général, il veut clairement des joueurs un peu plus imposants. C'est clairement important pour lui. Si t'es un petit joueur et que tu démarques, c'est que t'es vraiment un excellent élément. Je pense à Quinn Hughes, je pense à Cole Caulfield qui est quand même dans le camp d'orientation. Donc ça, je suis pas surpris. Maintenant, de l'ignorer, qu'il ne fasse pas l'équipe, ça, je peux comprendre. Justement, t'as Quinn Hughes, t'as quand même plusieurs bons défenseurs offensifs qui peuvent prendre la place. Mais de ne pas l'inviter carrément. Tu sais, je regarde les joueurs qui ont été invités, puis c'est rien contre eux. Mais t'as Jackson Lacombe, qui est un défenseur gaucher, qui, moi, selon moi, a beaucoup moins accompli que Lane Hutson. La preuve, c'est que Hutson a gagné le trophée Calder, et Lacombe a été très bon, une excellente saison. Mais on en a moins parlé. Luke Hughes, plus gros, plus imposant également. Patson peut-être mieux en ligne droite. Mais Hutson, selon moi, est beaucoup plus intelligent, bouge beaucoup mieux la rondelle et les statistiques sont là. Donc moi, vraiment, je pense que c'est de ce côté-là où moi, je pense que c'est une aberration. Invite-le. Ça ne veut pas dire qu'il va se tailler une place, mais donne-lui au moins la chance de se démarquer parmi les Adam Fox, les Noah Hannifin, les Brock Faber, les Hughes et compagnie. Là, je trouve que c'est un peu dommage et tu te prives vraiment d'un élément important du côté des Américains.
Mais c'est ce que j'avance depuis le début de l'émission. Moi, j'arrive ici, mais c'est pas pour vous dire que Lane Hutson devrait faire partie de la formation américaine en février à Milan. Ce que je vous dis, c'est, ce que Martin, tu mentionnes un peu aussi, c'est que c'est un camp d'orientation. Un camp d'orientation, Martin, ça sert à évaluer des talents en vue d'une possible sélection pour d'une éventuelle sélection pour les Jeux olympiques qui s'en viennent en février. Et quand je regarde cette liste de noms-là, je sais pas en quoi un Lane Hutson en a fait moins qu'un gars comme Jackson Lacombe, que j'aime beaucoup, soit dit en passant, qui a un excellent lancer à la ligne bleue. Mais c'est quand je regarde cette liste-là, je comprends pas pourquoi Lane Hutson en a fait moins que certains défenseurs qui y figurent. C'est mon opinion là-dessus. Et je comprends que la sélection menée par Bill Guérin, tu as parlé également du caractère d'un gars comme Bill Guérin, de ce qu'il peut rechercher chez un défenseur. Mais tu sais, Jackson Lacombe, c'est aussi un défenseur gaucher. Moi, c'est tout ce que ça englobe, tu comprends?
Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, c'est ça, c'était donne-lui l'occasion au moins de se démarquer. Tu sais, tu sais pas, premièrement, Lane Hutson est en pleine... on a vu Lane Hutson l'an dernier, il continue de progresser. C'est sûr que dans 5 mois, Lane Hutson va s'être amélioré. C'est sûr que, on parle beaucoup de des critiques sur le plan défensif, à quel point il est vulnérable sur le plan physique. Parfois, il met peut-être un peu trop de pression à la ligne bleue adverse, ça se transforme en revirement, des choses comme ça. Tu sais, pensez-vous que Lane Hutson ne le sait pas, ça? T'sais, c'est clair qu'il va continuer de prendre des leçons, de s'améliorer et tout ça. Donc, donne-lui simplement la chance de se mesurer à des Luke Hughes, des Fox, des Hughes et compagnie, des Quinn Hughes et compagnie. Puis là, si ça ne fonctionne pas, que tu vois qu'il n'est pas dans ton top 7 ou top 8 pour les Jeux Olympiques, passe par-dessus. Moi, personnellement, je ne pense pas qu'il a sa place parce que justement, t'as Fox, t'as Hughes. Là, c'est parce que tu commences à avoir beaucoup de petits défenseurs qui bougent bien la rondelle. Mais donne-lui au moins la chance. Tu sais pas, justement, s'il s'améliore et qu'il amène son jeu à un autre niveau, qu'il se place justement dans la catégorie des Fox et des Hughes, ben là, je dis n'importe quoi, mais peut-être que c'est Hutson qui se tarait une place en avant de Fox. Mais là, on ne lui donne même pas la chance. C'est ça que je trouve un peu dommage.
Ouais, puis quand on regarde la liste, je parlais de Jackson Lacombe, il y a des Neil Pionk aussi, des défenseurs qui sont quand même axés offensivement, qui font partie de cette liste de joueurs invités. Qu'est-ce que a pu jouer contre Lane Hutson, Martin, à ton avis? Est-ce que c'est vraiment une question de gabarit?
Moi, je pense vraiment que c'est uniquement une question de gabarit. Puis c'est intéressant lorsque tu regardes vraiment les autres défenseurs qui ont été invités. Là. Bon, comme je mentionnais, Adam Fox et Quinn Hughes sont peut-être un peu plus petits, mais là, à un moment donné, on parle d'élite de la Ligue nationale de hockey. T'as pas vraiment le choix de les inviter. Mais tu regardes tous les autres qui ont été invités, que ce soit des défenseurs qui sont bons pour bouger la rondelle. T'as parlé de Neil Pionk, FX, c'est exactement ça. Lacombe, c'est quelqu'un qui est extrêmement bon pour bouger la rondelle, qui a un bon tir, comme tu l'as mentionné. Mais pour tous les autres, là, sont tous des gars qui sont quand même assez gros, du 6 pieds 1, 6 pieds 2, 6 pieds 3 pouces. Noah Hannifin, Jacob Slavin, on sait à quel point il est excellent défensivement, capable de bloquer beaucoup de tirs. Même un gars comme Alex Vlasic, on s'entend qu'il n'est pas là pour son attaque, mais c'est quelqu'un qui est maintenant établi sur la première paire à Chicago, qui est très très bon défensivement, qui est bon physiquement, ça a toujours été quelqu'un de difficile à affronter. Donc, clairement, tu vois qu'est-ce qu'on a invité, tu vois les joueurs qu'on a regroupés, puis clairement, du côté de Bill Guérin, c'est on se dit... À moins qu'on ait un joueur vraiment, mais vraiment dominant au niveau défensif, on veut des gars de gabarit, on veut qu'on soit difficile à affronter. Puis c'est, moi, je pense que c'est l'unique raison pour laquelle Lane Hutson a été ignoré, parce que sinon, prenons que les statistiques, 66 points, t'es parmi les meilleurs de la LNH, t'es terminé devant un Victor Edman au niveau des points. Simplement avec ça, à quelque part, t'es déjà parmi les meilleurs de l'équipe américaine, simplement sur le plan offensif. Et là, défensivement, par la suite, tu verras que c'est, ça va bien.
Ouais, puis quand on regarde également les défenseurs américains la saison dernière, là, tu l'as mentionné, Lane Hutson est venu au sixième rang des meilleurs défenseurs en termes de production offensive la saison dernière, mais le troisième joueur américain, Zach Werenski, a accumulé 82 points, Quinn Hughes 76, et le troisième défenseur américain à se faufiler parmi les meilleurs pointeurs de la Ligue nationale, c'est Lane Hutson avec sa récolte de 70 points la saison dernière. NHL Network a sorti sa liste des 20 meilleurs défenseurs en vue de la prochaine saison. Martin, Lane Hutson était au 19e rang aussi là-dedans. Alors de voir 16 défenseurs américains invités au camp, Lane Hutson classé par NHL Network au 19e rang, de voir qu'il n'y a pas cette invitation-là, mais pour toutes les raisons qu'on a énumérées, son gabarit a joué contre lui, mais de voir un défenseur quand même comme Lane Hutson qui ne figure pas parmi cette liste de défenseurs invités au camp d'orientation. J'ai été pas mal surpris de voir la nouvelle. Peut-être un petit mot sur Cole Caulfield, qui lui a reçu son invitation. Martin, il avait été ignoré l'an dernier par la formation américaine au tournoi des Quatre Nations, mais il a quand même reçu son invitation par la formation américaine pour le camp d'orientation.
Ouais, je suis pratiquement, c'est bien pour Cole Caulfield, c'est bien qu'on reconnaisse son talent, puis il y a eu une saison vraiment formidable. On a vu à quel point il était capable de progresser un petit peu plus dans l'ensemble de son jeu. C'était déjà un excellent marqueur, mais vraiment de trouver une façon d'être un peu plus régulier, tout ça. Donc, tu sais, vraiment, il mérite sa place. Mais un peu pour la même raison qu'un Lane Hutson, j'ai été surpris parce que, je sais pas si tu te souviens, l'an dernier, justement, la confrontation des Quatre Nations avait été ignorée. Il y avait eu beaucoup de mécontentement. On se disait qu'il avait une place dans cette formation-là. Donc là, de le choisir, ben, je pense que c'est simplement une belle tape dans le dos pour Cole Caulfield de lui dire, ben, écoute, t'as vraiment bien progressé. Son jeu défensif s'est amélioré. Ça a souvent été un problème pour Cole Caulfield dans les dernières années. Mais là, pas mal plus conscient, il contrôle peut-être un peu mieux son jeu là, pour couvrir les pointes et tout ça. Puis à quelque part, je reviens à Bill Guérin, je pense que c'est un élément important, vraiment le côté défensif. Et là, tu regardes d'autres joueurs qui ont été invités, des Shane Pinto par exemple. Tu sais, Cole Caulfield est bien meilleur qu'un Shane Pinto, mais Pinto est invité parce qu'il peut remplir un rôle défensif. Donc je pense que là-dessus, Caulfield, c'est une belle tape dans le dos sur la progression qu'il a apportée dans l'ensemble de son jeu. Et là, ben, par la suite, on se le cachera pas. Tu sais, si tu veux vraiment un élément comme un excellent marqueur naturel que tu peux placer en passant avec son ancien coéquipier du programme américain des moins de 18 ans, Jack Hughes, tu peux le placer avec Austin Matthews, tu peux le placer avec JT Miller. Il y a tellement de talent du côté des Américains, Logan Cooley, Clayton Keller, que là, ben, c'est sûr que si Caulfield est capable de montrer une belle chimie, ben, c'est sûr que ça devient un élément intéressant pour les Américains, là, du côté de Milan. Là.
On voulait discuter ensemble de la Coupe Linka-Gretzky, de faire un bilan de la Coupe Linka-Gretzky. Je veux commencer, Martin, en te jasant de la formation canadienne. On parlait beaucoup de Keaton Veroff qui pourrait chauffer Gavin McKenna, peut-être pour le poste de numéro 1, de premier joueur sélectionné en vue du prochain repêchage en 2026 dans la Ligue nationale. Après ce tournoi-là, comment tu vois ça côté Keaton Veroff? Est-ce qu'il peut vraiment être une option potentielle d'être sélectionné premier au total de ce repêchage-là?
C'est certain que la Coupe Linka-Gretzky, ça demeure un tournoi estival, puis t'es vraiment au début de la saison. Ouais. Donc, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais tu regardes ce que Keaton Veroff a offert à la Coupe Linka-Gretzky, où il était capitaine, il a obtenu 4 points en 5 matchs, différentiel de plus 4, il a quand même fait de belles choses. Mais de là à dire qu'il est capable d'en donner pour son argent à Gavin McKenna, qu'on associe beaucoup à Connor McDavid, à Sidney Crosby, à Connor Bedard, tous les gros noms du hockey, là, je trouve que c'est poussé. Moi, je pense que Keaton Veroff, avec ce qu'ils l'ont montré, est peut-être plus près du troisième rang que du premier rang. Son talent offensif ne fait aucun doute. C'est quelqu'un qui a une excellente vision de jeu. C'est quelqu'un qui se porte à l'attaque. C'est quelqu'un qui est capable de justement se faufiler entre la rampe et les joueurs adverses, se rendre au filet quand même en se faisant oublier. C'est un gars qui est très calme avec la rondelle, donc tu sais, capable de vraiment voir ses options et tout ça. Mais moi, j'ai pas nécessairement apprécié le jeu de Veroff alors que ça se déroulait rapidement, de jouer avec beaucoup de rythme. Il prenait du temps, il était calme, mais pratiquement trop. Là, ça faisait en sorte qu'il mettait beaucoup de revirements, la pression ça venait sur lui, moindrement que tu avais des opposants un peu plus imposants physiquement, qui avaient un peu plus qui étaient un peu plus néanés avec Veroff au niveau du gabarit, ça se passait moins bien. Il y avait des revirements, ça amenait à des chances de marquer quand même importantes pour l'adversaire, ça amenait à des buts. Donc je pense que pour toutes ces raisons-là, Keaton Veroff demeure quelqu'un d'intéressant. Il a un excellent tir, il a un jeu offensif très développé. Il est quand même 6 pieds 4 pouces, il a quand même un coup de patin correct, là, disons. Puis il va se diriger du côté de North Dakota dans la NCAA. Mais de dire qu'il se bat contre Gavin McKenna, ouais, moi je pense que c'est une autre preuve que c'est complètement absurde. Et je pense qu'il faut davantage le voir comme un candidat, le favori pour le deuxième rang, mais qui n'est pas, selon moi, vraiment en avance. Il va se battre avec 5 ou 6 joueurs, dont certains dont on a vu à la Coupe Linka-Gretzky aussi. Là.
À quel point la Coupe Linka-Gretzky, c'est important en vue du prochain repêchage dans la Ligue nationale?
C'est un peu drôle à dire. Je pense que c'est important pour se rajouter des noms dans ta liste, pour voir un peu qui tu vas surveiller toute la saison et qui tu vas surveiller au niveau de la progression. Mais je pense que c'est peut-être le tournoi le plus surévalué dans le sens que la Coupe Linka-Gretzky, c'est l'été quand même. Il y a des joueurs qui... Tu sais, la saison n'est pas commencée. C'est à 10 mois du repêchage. Les joueurs vont être complètement différents une fois au mois de juin 2026. Donc là, de dire, OK, là, le joueur est très impressionnant, puis c'est un tournoi de moins de 18 ans aussi, ça peut être facile pour certains de se démarquer. Si t'as pas vraiment de joueurs très physiques, si t'as plus de problèmes défensifs, ça fait en sorte que certains joueurs de talent vont plus se démarquer, mais avec des joueurs plus expérimentés, meilleurs défensivement, qui couvrent mieux la zone et tout ça, ça devient peut-être un peu plus compliqué. Donc, je pense que ça donne déjà un bon indice. T'as quand même certains noms. Je parlais de Belchit, je parlais de Veroff, j'ai bien aimé Tylan Lawrence. Ça donne déjà un bon point de départ. Mais si les gars ne progressent pas toute l'année, un gars comme Lawrence, autant je l'aime bien, autant je pense le mettre dans mon top 5, autant il va glisser si ça demeure le même joueur. Parce qu'à un moment donné, on le répète, le but, c'est pas repêcher le meilleur joueur le 19 août 2025. C'est de repêcher le meilleur joueur dans 3 ou 4 ans. C'est ça qui est important. T'sais.
Je me rappelle quand on s'était parlé la semaine dernière, c'était durant le match demi-finale Canada-États-Unis. On s'était parlé durant cette demi-finale-là, puis on s'était laissé juste avant la séance de tir au but. Finalement, les Américains l'ont emporté. D'ailleurs, de terminer un tournoi comme celui-là dans une phase éliminatoire au tir au but, je pense que ce serait à revoir peut-être de la manière qu'on termine ces tournois-là après une prolongation à 3 contre 3 de 10 minutes. Mais jamais fan quand même de voir ces équipes-là se faire éliminer ou perdre de cette manière-là en tir de barrage. Mais à la surprise de plusieurs, les Américains sont ensuite allés chercher la médaille d'or contre la Suède en grande finale. Est-ce qu'il y a un joueur qui est ressorti du lot dans cette Coupe Linka-Gretzky-là pour les Américains?
Ouais, ben tu sais, le nom qui est ressorti beaucoup, c'est Jack Extall, qui a justement eu un excellent match de la médaille d'or et tout ça. T'sais. Tu le vois jouer en avantage numérique et il est extrêmement créatif. J'aime beaucoup le fait qu'il est capable de pivoter très bien latéralement. Donc, lui, on le plaçait à gauche en avantage numérique, puis toujours en train de changer l'angle. Ça devient difficile pour le gardien de but qui, premièrement, a 3 ou 4 joueurs devant lui. Puis là, à force de se déplacer, à force de plutôt que de tirer, par exemple, à partir du point à gauche, là, tu te déplaces de quelques pouces, ça devient compliqué. Mais moi, le gars qui m'a impressionné sur tout FX, c'est Nikita Klepov. C'est un gars qui va jouer dans la OHL cette année avec le Spirit de Saginaw. Un peu le même gabarit qu'Extall. Moi, je l'aime un petit peu plus qu'Extall parce que je trouve qu'il est un peu plus rapide. Mais Klepov, moi, m'a impressionné encore une fois au niveau de sa créativité. Ses mains, il est extrêmement rapide. Il était toujours en périphérie. Il était capable de s'esquiver de la pression rapidement, de foncer au filet. Et là, j'ai parlé de périphérie, mais c'est quelqu'un qui était capable d'aller à l'intérieur aussi, qui était capable d'aller au filet, qui est quand même une bonne hanche, qui n'a pas nécessairement trop de problèmes, j'ai trouvé, au niveau physique. Évidemment, c'est un tournoi des moins de 18 ans, donc ça, ce sera à revoir. Mais j'ai bien aimé ce qu'il a apporté. J'ai trouvé qu'il était dynamique. J'ai trouvé qu'il y avait une belle explosion. Et là, de voir dans la OHL une ligue qui va perdre quand même certains éléments importants, je pense à des Porter, Martin et compagnie, bien, s'il est capable d'amener un peu plus de points, de prendre de la confiance, de travailler sur son jeu offensif, de travailler sur son jeu physique, moi, c'est un gars que je noterais, là, Nikita Klepov, parce que je trouve qu'il a le talent offensif vraiment pour se démarquer. Puis, tu sais, dans un cas d'un joueur de plus petite gabarit, tu te dis, bon, est-ce qu'il est capable de prendre le jeu physique? Est-ce qu'il commet des revirements? Mais dans son cas, j'ai trouvé qu'il avait un beau taux d'efficacité. Donc, lui, vraiment, je vais le surveiller là, pour la prochaine saison. Là.
Martin Thériault, c'est toujours un plaisir de jaser en ondes. Félicitations encore pour la co-animation du podcast Processus qui va débuter avec le premier épisode le 17 septembre. Nous, on se reparle très bientôt. On se rejoint jeudi 15h même heure. Alors, un gros merci pour ton temps aujourd'hui, Martin Thériault.
Toujours un plaisir, FX. On est excités. C'est la saison de hockey recommence tranquillement, pas vite. Puis on attend que ça.
Mais je suis d'accord avec toi. Un gros merci, Martin.
Merci, bye-bye. Là.
Martin Thériault qui était avec nous pour faire un bilan de la Coupe Lingard-Gretzky, parler également de la non-nomination de Lane Hutson pour le gant d'orientation de l'équipe américaine en vue des Jeux olympiques en février 2026 à Milan.